Vous écoutez RTL.
Ils sont des millions à y jouer en ce moment même.
RTL. Jusqu'à 22h.
Certains se rencontrent dans des casinos, d'autres sont chez eux, devant leur ordinateur.
La curiosité est un vilain défaut.
D'autres encore se donnent rendez-vous dans des arrière-salles très confidentielles.
C'est la voix.
Le jeu auquel ils se livrent appartient à la grande légende du Far West. Il est aujourd'hui le jeu de cartes le plus populaire du monde, le poker.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qui rend ce jeu si fascinant?
Et c'est l'une des questions que l'on va poser à notre invité, puisque c'est l'histoire d'un joueur et d'un voyageur que l'on va vous raconter maintenant. Notre invité est architecte de formation, mais ça n'a rien à voir. Un jour, il a tout plaqué pour jouer au poker et traverser l'Amérique du Sud à moto. Bonsoir, Jonathan Salamon.
Bonsoir.
Bienvenue dans la curiosité. D'abord, quand est-ce que vous êtes revenu ?
Juste après avoir joué les championnats du monde de poker à Las Vegas en juillet.
D'accord.
Donc, ouais, j'ai atterri à Paris fin juillet.
Pas bon. Trop dur, l'atterrissage ? Je parle pas de l'avion, je parle de vous. Hein.
Ouais, la réacclimatation.
Non, ouais. C'est vrai qu'après avoir vécu 2 ans et demi en Amérique, il y a eu un moment de flottement, on va dire. Il y a eu des moments, il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle en fait. Des jours de grand bonheur et des jours de bas, on va dire.
Mais vous avez repris votre métier d'architecte, par exemple ?
Ah non, pas du tout. Pas
ça
du
c'est
tout.
Fini, ça c'est derrière vous.
Ah ouais, ouais. Bah c'est-à-dire que après avoir vécu pendant 2 ans, toutes les aventures que j'ai vécues, l'idée de me poser devant un ordinateur et bosser 8 heures par jour à faire architecture, j'ai changé de priorité, on va dire. C'est plus vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors j'ai plus envie de me consacrer à une carrière, enfin même pas une carrière, mais quelque chose de plus artistique et de plus libre, on va dire.
On va en parler, Jonathan Salamon. Le poker et le voyage, ce sont deux virus. Mais lequel est le plus puissant ?
Je crois que les deux ont leur très grande intensité. C'est-à-dire qu'au poker, on vit des choses à la fois très fortes dans le bien et dans le mauvais. Quoi. On a des soirées où on gagne beaucoup d'argent, où on a très bien joué, on est très fier de soi et on sort de là. En se disant qu'en étant euphorique, quoi, complètement euphorique. Et puis,
des émotions qu'on retrouve dans le voyage ?
Ah ouais, bah dans le voyage, on a des moments de grâce, quoi. On a des moments presque mystiques où on se dit que tout a un sens et tout est beau et tout est grand et tout est fort. Et c'est vrai que les deux ont une très grande intensité.
Il y a des moments down aussi dans les deux.
Ah, dans les deux, ouais. Le voyage et le poker, il y a des moments où on est au fond du trou et après une grosse défaite de poker, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous et pourquoi j'ai fait ça et on se maudit d'avoir fait des erreurs, voilà. Dans le voyage c'est pareil, il y a des jours où on se dit mais qu'est-ce que je fous dans cette ville, enfin voilà, il y a de tout, quoi.
Mais c'est votre gagne-pain, le jeu, Jonathan Salamon. C'est votre métier, c'est votre salaire.
Ça l'a été pendant mon voyage, ouais. Ça l'a été pendant un peu plus d'un an et demi, jusqu'à ce que malheureusement je me broke, comme on dit au poker, c'est-à-dire que je fasse faillite. Et à partir duquel la nature du voyage a un peu changé, ouais. Mais ouais, j'ai été joueur de poker professionnel pendant un an et demi à peu près sur les tables sud-américaines.
On va raconter les étapes de ce voyage que vous détaillez dans un livre, Récit d'un joueur itinérant, qui est publié chez Hugo Doc. Alors ça commence quand cette aventure, quand et puis pourquoi ? Pourquoi vous décidez de partir ?
Ça commence en décembre 2012, un peu avant décembre 2012, date à laquelle j'avais été architecte depuis 2 ans, et mon patron m'a proposé un CDI.
Et, normalement, tout le monde dit chouette.
Et tout le monde dit chouette, et ça aurait dû être le cas aussi pour moi, mais ce CDI m'a fait me poser beaucoup de questions. Ça faisait très très longtemps que... Ça faisait 10 ans que je jouais au poker, ça faisait 10 ans que je voyageais assez intensément. Et au moment où on m'a proposé le CDI, je me suis dit... Est-ce que je vais pouvoir vraiment réaliser ces passions ? Est-ce que je vais pouvoir me tester ? Est-ce que je vais pouvoir faire ces choses-là ? Et je me suis rendu compte que si j'acceptais, bah, j'aurais peut-être plus jamais l'occasion de faire tout ça.
Parce que vous aviez une idée en tête, alors vous aviez envie de faire quelque chose ?
Ah bah moi j'avais comment ?
C'était un défi ?
Ouais, en quelque sorte. C'est-à-dire que je voyageais depuis mes 18 ans et j'adorais voyager. Et j'avais toujours eu ce petit truc en tête de me dire, je vais faire le tour du monde. Depuis que j'ai commencé à voyager en solitaire, justement, à 18-19 ans, je voulais faire le tour du monde. Et c'était une idée qui s'était un peu diluée dans la routine du travail. Et en fait, au moment où on m'a proposé le CDI, ouais, elle est revenue en force. Et c'est là que j'ai décidé de refuser le CDI et de partir, quoi. J'ai acheté mon billet et voilà.
Vous partez avec 6 000 euros en poche. Vous pensiez tenir combien de temps avec ces 6 000
Avec un peu plus, avec 9 000 euros.
Ah,
Ma bankroll, ce qu'on appelle ma bankroll, c'est-à-dire mon compte en banque de poker, j'avais gagné 9 000 euros au cours de ma carrière de joueur de poker, en quelque sorte.
C'est beaucoup ou pas ?
Bah, vu que j'y avais passé quand même 10 ans de ma vie, c'était pas...
C'est pas énorme.
C'était correct, on va dire. C'était correct, mais j'étais pas un tueur au poker.
Mais alors, l'idée, c'est...
Et attendez, il faut répondre à la question. Avec cette somme-là, vous pensez tenir combien de temps en voyage ?
Moi, je suis un voyageur qui dépense assez peu d'argent parce que je vis chez l'habitant, etc. Donc, je pensais tenir 8 mois, 9 mois peut-être.
Et vous avez tenu ?
Et j'ai tenu un peu plus de 2 ans et demi. Voilà. Donc,
c'est pas mal.
Le poker, l'idée, c'était justement d'utiliser le poker sur la route et de jouer partout, ou là où je trouverais des parties, et d'essayer de prolonger le voyage de cette manière.
Mais l'idée, c'est de voyager pour pouvoir jouer au poker ou de jouer au poker pour pouvoir voyager ?
Bah, au début, je partais pour jouer au poker. Et puis en cours de route, ça s'est un peu transformé. C'est-à-dire qu'en cours de route, je me suis acheté une moto grâce à mes gains, je me suis acheté une caméra, je me suis acheté plein de petits trucs. Et j'ai fait beaucoup de rencontres passionnantes et étranges et étonnantes qui m'ont fait un peu dévier de mon objectif initial qui était le poker. Et ça m'a fait prendre conscience que le voyage en soi était quelque chose de magnifique. Et les priorités ont un peu changé en cours de route. Quoi.
Jonathan Salamon, vous avez parlé des championnats du monde de poker. On racontera ça dans le détail tout à l'heure. Mais est-ce que ce rêve-là, c'est un rêve que vous avez eu gamin de ouais. participer au championnat du ouais. monde de,
alors
de
c'est
poker.
Rigolo, vous avez passé le jingle de Patrick Bruel tout à l'heure. Moi, j'ai commencé.
C'est pas par hasard.
Non, j'ai commencé à jouer au poker à l'époque où je regardais Patrick Bruel sur Canal+ présenter les championnats du monde de poker. Et j'avais 18 ans, et même j'avais 17 ans à l'époque. Et je faisais, waouh, ça a l'air génial. Je voyais toutes les stars. Voilà, il y avait plein de stars qui m'impressionnaient. Et je me disais, ça serait cool. Ça serait cool d'y être un jour. Et 10 ans plus tard, bah, j'y étais. Quoi. J'y ouais. étais et c'était totalement inattendu.
Comment réaliser ses rêves ? Eh ben, on va vous expliquer ça grâce à notre invité. Il est donc parti à moto, cartes et jetons de poker dans les sacoches. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Traverser l'Amérique du Sud à moto et gagner sa vie en jouant au poker. C'est le voyage un peu fou que l'on vous raconte maintenant avec notre invité Jonathan Salamon. Vous arrivez donc au Brésil, à Rio de Janeiro. Nous sommes en avril 2013. Et là, vous commencez par jouer au poker. Est-ce que vous gagnez rapidement beaucoup d'argent ?
Ça commence un peu mal parce que ma première partie qui se passe dans un gratte-ciel à Rio, je perds. Je perds et la deuxième partie dans la banlieue de Rio, je perds aussi.
C'est-à-dire que vous arrivez quand même à Rio de Janeiro, vous savez où vous pouvez aller jouer ? Comment
y a Non, j'en ai aucune idée.
Il y a comme un guide
J'arrive. Ça, dans ma philosophie de voyageur, il y a aussi un truc qui fait que je prévois jamais rien. Quoi. Donc j'arrive à Rio sans savoir vraiment où je vais jouer et je commence à poser des questions un peu partout pour demander. Personne ne sait, alors je ne m'attendais pas
C'est
du
tabou.
Tout à ça. Au Brésil, le poker a un statut un peu ambigu parce que les jeux de hasard sont interdits, donc il n'y a pas de casino, mais les jeux d'adresse sont autorisés. Le poker a ce statut un peu ambigu, on ne sait pas trop si c'est adresse, hasard, etc. Et donc ça se joue dans des clubs qui sont ni tout à fait illégaux, ni tout à fait légaux, qui sont difficiles à trouver, qu'on trouve sur Internet. En fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier club. Et voilà, quoi. Donc, j'arrive un soir devant un gratte-ciel à Rio. J'ai que l'adresse qui est notée sur un papier.
Vous dites, c'est pas là, je me suis trompé, c'est ça ?
En plus, le pire, c'est qu'il n'y a aucune inscription, quoi. Ouais. Donc, mais il y avait quand même dans ma tête, je voulais faire ce truc. Je voulais jouer. Mais entre le vouloir et être devant le gratte-ciel à un moment et devoir prendre l'ascenseur et monter, il y a un monde. Donc, c'est vrai qu'au moment où je suis devant ça, il y a un petit sentiment.
Et on vous laisse entrer comme ça ?
Ouais.
Vous parlez portugais ? Vous parlez anglais ?
Non, pas du tout. Je parle anglais, mais personne parle anglais d'ailleurs quand j'arrive, c'est assez marrant. Alors je me dépatouille et puis après le fait que je sois français et que justement je sois complètement perdu, les mecs se demandent mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça m'a ouvert pas mal de portes. Cette innocence et cette naïveté, elle m'a ouvert pas mal de portes.
Mais vous perdez donc ces premières parties. Le poker, c'est une école d'humilité, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, ce récit d'un joueur itinérant
ouais.
chez Godoc.
Le poker, comment dire, pour devenir un bon joueur de poker, on est obligé d'avoir une très très grande sincérité envers soi-même. C'est-à-dire que pour progresser, on doit être capable de repérer ses erreurs. On doit être capable de se remettre systématiquement tout le temps en question. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, on perd tout simplement.
C'est intéressant ce que vous dites d'une sincérité envers vous-même, mais pas envers les autres. Le poker.
C'est du bluff, hein ?
Ouais, il faut savoir. Enfin, c'est-à-dire que oui, évidemment, ça implique de savoir contrôler ses émotions, mentir physiquement. Et voilà, donc effectivement, ouais, c'est tout un jeu d'apparence et de masque aussi, le poker.
Jonathan Salamon, avant ce livre, on vous a découvert à travers un blog. le World Poker Trip. Vous avez commencé à l'écrire tout de suite dès votre arrivée au Brésil.
Ça ouais.
a commencé.
Ouais. Ouais. Alors le blog.
C'est quoi l'idée en fait?
Bah l'idée à la base c'est de donner des nouvelles à ma famille, à mes amis quoi. Au début il y a peut-être 30 personnes qui me lisent quoi. Et en fait, le blog fait son petit chemin. C'est-à-dire qu'au début, je l'écrivais de manière totalement comme ça, de temps en temps, un article de temps en temps, pour donner des nouvelles. Et il devient de plus en plus grand. C'est-à-dire que les gens se passent le mot qu'il y a un petit Français qui est en train de faire le tour d'Amérique en jouant au poker, et les gens me lisent. Et puis avec les aventures qui m'arrivent, avec l'achat de la moto, avec les parties, parce qu'il commence à arriver des parties un peu clandestines et un peu chaudes, bah, il commence à prendre beaucoup d'ampleur. Quoi.
Et c'est quoi ces parties un peu chaudes? Par exemple, à Ciudad del Este.
Ciudad del Este.
Là, on est au Brésil toujours?
On est au Paraguay.
Paraguay.
Le deuxième pays du voyage. Ouais. Le Paraguay, c'est un pays qui est très très peu visité. Et d'ailleurs, quand j'étais en voyage, tout le monde me demandait mais qu'est-ce que tu vas faire au Paraguay? Parce que tous les Brésiliens à qui je disais je vais au Paraguay, ils me faisaient mais tu vas faire quoi? Pour eux, le Paraguay, en fait, c'est un petit pays, c'est une sorte de supermarché géant où ils vont acheter leur iPod, ils vont acheter leur je sais pas quoi, parce que c'est beaucoup moins cher. Et ils comprenaient pas l'idée d'aller là-bas, quoi. Alors moi qui aime bien aller un peu partout en voyage, j'aime bien un peu les canards boiteux aussi, je voulais y aller, quoi. Et j'arrive là-bas et je comprends, parce que j'arrive dans une ville chaotique, horrible, sale. Et puis un peu, enfin vraiment misérable, quoi, malgré tout. Et en fait, puisque l'Est, c'est une ville qui a la triple frontière. Paraguay, Brésil, Argentine. Et les villes un peu frontalières en Amérique du Sud, bah, c'est des villes de trafic, c'est des villes où il se passe un peu tout et n'importe quoi. Et à Ciudad del Este, bah, on peut acheter tout ce qu'on veut.
Si et votre souvenir de partie un peu chaude?
Bah ouais, alors un peu innocemment, moi je me dis je vais jouer dans cette ville, voilà, et j'arrive un soir devant le casino de Ciudad del Este, à l'entrée, le gardien avec son fusil à pompe qui révise, quoi, et là c'est là qu'on se demande mais pourquoi je suis là, quoi.
Oui.
Et
on rentre. Et à l'intérieur, ils ont tous une arme aussi?
À l'intérieur, il y a le petit portail où il faut déposer son arme, quoi, si on en a une.
Vous avez déposé quoi, vous?
Moi, j'ai rien déposé. J'avais une bombe lacrymo sur moi, mais elle ne m'a pas servi à ce moment-là. Elle ne m'a pas servi. Heureusement, je ne l'ai jamais utilisée, mais je l'avais dans les parties un peu chaudes, quoi.
Et donc, la partie, elle ressemble à quoi, là, avec des gros
partie,
bras qui déposent leur arme?
Alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est une ville qui est. Donc, comme toutes les villes frontières, elle regroupe toutes les nationalités qu'on peut imaginer. Donc, à table, il y a une Chinoise, il y a un Libanais, il y a des Paraguayens, des Brésiliens, il y a moi, Français. Et paradoxalement, au lieu d'être dans une ambiance hyper tendue, etc., il y a une sorte de chaleur et de. Tout le monde est hyper étonné de mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il y a vraiment. Et c'est rigolo, enfin c'est marrant. Et on joue et ils sont curieux de savoir ce que je suis en train de faire là. Et moi, je suis curieux de savoir ce qu'ils font tous là.
Vous discutez pendant que vous jouez,
c'est ça? On discute, ouais, c'est ça le poker. C'est-à-dire que le poker live, en tout cas le poker en vrai, pas le poker sur Internet, c'est aussi être à table avec des gens qui sont totalement inattendus et essayer de savoir qui ils sont. Et moi, c'est un des trucs qui m'a fait commencer à jouer au poker, justement. C'est sortir un peu de ce milieu d'étudiant en architecture où je connaissais... un peu toujours les mêmes personnes, etc. Et c'est pour ça, pour cette sociologie hyper diverse du poker, que j'ai commencé à jouer au poker.
Après les infos, on continuera notre voyage extraordinaire en Amérique du Sud avec Jonathan Salomon. Je ne sais pas s'il aime cette chanson, on verra bien.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Rebonsoir les curieuses et les curieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Tout à l'heure, que vous y croyez ou pas, on vous dira tout sur les ovnis.
J'attends ça avec impatience. Mais pour l'instant, on continue de vivre cette aventure sud-américaine pleine de rebondissements avec Jonathan Salomon, poker et moto.
RTL.
Ta première arme, quand tu arrives à une table, c'est d'observer tes adversaires. J'attendais d'avoir des lectures un peu plus concrètes pour commencer à établir une stratégie.
La curiosité est un vilain défaut.
Au poker, moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que l'habit fait le moine. Tu arrives à une table et tu fais une analyse sociologique de ta table. L'âge des gens, comment ils sont habillés, ce qu'ils commandent à boire.
Jusqu'à 22h.
S'ils ont plutôt l'air d'être là pour l'argent ou s'ils ont l'air d'être là pour s'amuser, c'est la première chose que je fais.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité avec Jonathan Salomon, joueur et voyageur, qui publie Récits d'un joueur itinérant du Brésil à la Colombie chez Hugo Doc.
Pour être clair, nous, on ne joue pas hein, ce soir, Jonathan.
On n'a pas de jetons.
On n'a pas d'argent. On est là juste pour vous interviewer.
Vous n'allez pas pouvoir nous filmer.
Ça ira. Ça
ne marchera pas. Vous avez fait ce voyage à moto.
Ouais.
Et je crois que vous donniez un petit nom à vos motos. Comment
ma moto s'appelait Parkinson parce que c'était une moto chinoise de très très mauvaise qualité qui tremblait dès que j'accélérais.
C'est drôle ça.
Ouais.
Ça a été la seule ou vous en avez eu
plusieurs ? J'en ai eu deux. J'ai eu une deuxième moto. Donc Parkinson, malheureusement, est décédé dans le nord du Pérou. Je l'ai abandonné là-bas et j'en ai acheté une deuxième en Équateur, le pays suivant, qui s'appelait Vegas, parce que le but c'était d'arriver jusqu'à Vegas.
Vous avez fait une cérémonie pour les obsèques de Parkinson ?
Bah, je l'ai offerte à une fille que j'ai rencontrée là-bas et qui a beaucoup compté dans le voyage. Donc c'était un peu la manière de lui donner une seconde vie en quelque sorte.
Vous avez joué au poker un peu partout dans ce périple en Amérique du Sud. Vous faisiez combien de parties par semaine ?
C'était extrêmement irrégulier. En fait, j'avais pas de règles par rapport à ça. Ce que je faisais, c'est que j'arrivais dans une ville. Et je commençais à me renseigner s'il y avait du poker. Et s'il y avait du poker, je commençais à jouer. Si la table était intéressante, parce qu'il y a des tables qui sont intéressantes et d'autres qui sont difficiles.
Comment vous le savez ?
Bah, en jouant, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à une table, on regarde les joueurs. Soit ils sont ce qu'on appelle des poissons dans le monde du poker, c'est-à-dire des mauvais joueurs, soit ce sont des requins, c'est-à-dire les très bons joueurs qui mangent les poissons. Donc quand on arrive à une table avec beaucoup de requins, il vaut mieux l'éviter parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'argent.
Mais une fois que vous avez commencé, vous pouvez vous arrêter en cours de jeu
ouais,
et dire
C'est-à-dire qu'il y a différentes variantes de poker et moi je joue à une variante où on peut rester 5 minutes et s'en aller. Quoi.
Et vous, vous avez une bonne tête de poisson parce que vous faites tout jeune.
Ouais.
C'est ce qu'ils se disaient les joueurs autour de la table.
Bah,
vous avez quel âge ?
J'ai 28 ans.
Ouais.
Mais on me donne souvent beaucoup moins que mon âge.
C'est vrai.
21, 22 ans. Et c'est vrai que c'est ce physique un peu, j'en parle d'ailleurs dans le bouquin, ce physique un peu juvénile m'a souvent aidé parce que j'ai pas l'air menaçant, on va dire.
Alors justement, quand vous arriviez dans les parties, dans les clandestines, comme vous dites, c'est votre terme, on vous laissait pas rentrer comme ça, j'imagine.
Non, bah il y a toujours.
Vous prenez pour qui ?
Bah. Ils me prennent souvent, enfin la première question qu'ils se posent, ils ne le disent pas ouvertement, mais ils ne se demandent pas si je suis un flic en civil. Quoi. Parce que c'est des clandestines, c'est des parties qui sont illégales, qui sont risquées et ils n'ont pas envie de se faire dénoncer. Donc ils veulent faire une sorte de... ils posent des questions, quoi. Ils posent des questions et ils veulent m'éprouver. Après, c'est extrêmement évident au bout de quelques secondes, même, enfin voilà, quelques secondes que je suis français et que je suis pas la personne qui croit que je suis. Et donc, ce physique juvénile et le fait que je sois français, etc., ça m'a ouvert beaucoup de portes.
Vous parlez bien espagnol ?
Bah, je suis bilingue maintenant.
Ah oui, mais en arrivant là-bas.
En arrivant, je baragouinais. Ouais, j'avais un petit niveau scolaire d'espagnol, mais c'est vrai que le fait que je voyage seul, ça m'a obligé à apprendre. Donc, quand on voyage seul, bah, il faut manger, quoi. Donc, quand on est dans la rue, il faut demander, bah, il est où le supermarché, etc. Et on apprend beaucoup, beaucoup plus vite qu'à l'école où on apprend. Ouais. Donc, l'espagnol aujourd'hui, à la fin du voyage, on me prenait pour un Argentin, quoi. Quand j'étais au Mexique et que je parlais, ils faisaient un Argentin, etc.
C'est drôle.
Ouais.
Alors, tiens, justement, à propos d'Argentine, l'une des parties clandestines, ça se passe dans un centre syrien. Syrio-libanais. Alors déjà, ça semble surprenant, c'était dans quelle ville et qu'est-ce que ce centre syrio-libanais fait là ?
Ça se passe à Tucumán. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? J'en ai
c'est
absolument...
C'est où Tucumán ?
Tucumán, c'est le nord de l'Argentine. C'est
D'accord.
l'extrême nord de l'Argentine. Mmh. Et puis c'est des villes qui sont pas très fréquentées au final touristiquement et c'est les villes qui m'intéressent. C'est vraiment là où j'ai envie de jouer. Quoi. Parce que c'est dans les villes où il se passe... A priori, les moins de choses qui se passent le plus de choses. Ça, c'est un truc que j'ai compris en voyage.
Mmh.
Et du coup... Que fait ce centre syro-libanais ici ? J'en ai aucune idée. Il y a une grosse communauté
voilà.
Libanaise en Argentine qui est là parce que c'est un pays d'immigration assez fort. Mmh. Donc il y a des Italiens, des Espagnols et des Libanais.
Oui.
Alors, et pourquoi je joue là ? Parce que en fait, j'arrive au casino à Tucumán et on me dit bah non, il n'y a pas de partie ici, pas de poker ici. J'arrive au deuxième casino, pas de poker ici. Et je suis hyper déçu parce que j'ai envie de jouer au poker à cet endroit-là. Et je pense que le mec à ce moment-là voit ma tête un peu déçue. Il me fait bon, il y a bien une partie, mais. Mais elle est clandestine, quoi, et on joue fort.
Alors, c'est quoi ? C'est plus excitant ? C'est plus effrayant, une partie clandestine ? C'était votre première partie clandestine ?
C'était la toute première du voyage. Ça faisait deux mois que je voyageais et j'avais joué donc dans les clubs qui étaient le statut un peu ambigu au Brésil et au Paraguay, c'était des casinos, donc c'était légal. Donc, l'Argentine, c'était le premier pays où je jouais une clandestine.
Vous avez hésité à y aller ? Vous aviez peur ?
C'est un mélange de peur et d'excitation. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais. Enfin, c'est ça qui m'excite en voyage, c'est d'arriver dans des endroits où je ne devrais pas être. Et donc effectivement, le soir où j'arrive à cet endroit-là, bah, j'ai ma bombe lacrymogène dans la poche, au cas où il se passerait un truc, mais j'espère du fond du cœur ne pas avoir l'utiliser, parce que je sais que le cas échéant, elle ne serait pas très utile. Et voilà.
Parce qu'une partie peut mal se terminer, c'est ça ? Ça peut finir quoi, à coup de couteau ?
Bah, heureusement, j'en suis jamais arrivé à ces extrêmes-là, mais j'ai eu des parties où je me suis fait insulter, menacer, et ils ont refusé de me donner l'argent. En Bolivie, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Mais là encore, mon statut de Français me protège. C'est-à-dire qu'à la fois, il me rend vulnérable parce qu'ils vont pas avoir trop de scrupules à m'arnaquer, mais en même temps, ils peuvent pas non plus faire trop de bruit et trop de... parce que je suis Français et que ça fait du bruit en France.
Voilà. Oui, cette première partie clandestine, Jonathan Salamon, vous gagnez de l'argent, vous en
alors,
perdez.
Ça se passe, alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça se passe en trois étapes. La première, je joue le premier soir, je gagne de l'argent, je suis content, je me dis putain, c'est une belle partie, je vais pouvoir revenir. Et la deuxième fois, je me fais raser, mais totalement, quoi. Je me fais raser la deuxième fois et je me dis, oh, pas de chance. Et
la troisième
je vais me refaire. Et je reviens à la troisième fois et je me fais une deuxième fois raser. Alors, j'ai jamais eu de preuve que je m'étais fait arnaquer ou j'ai jamais eu de preuve qu'ils avaient triché. Mais après, j'ai parlé à beaucoup de joueurs de poker spécialisés justement dans le poker clandestin. Et on m'a dit, c'est évident que tu t'es fait arnaquer ce soir-là.
C'est-à-dire que c'était trois jours similaires avec les trois mêmes équipes autour de la table ?
Les trois mêmes.
Ils vous ont appâté le premier jour, quoi.
Je pense. J'en sais rien. J'ai pas de preuve, mais j'ai pas de preuve, malheureusement. Mais on m'a raconté plus tard que c'est un truc qui marche beaucoup. C'est d'abord attirer le poisson et puis voilà quoi, donc je me croyais requin et en fait c'était moi le poisson.
Heureusement, pendant ces deux années et demie de voyage et de poker, il y a eu aussi des jours de chance. On va vous raconter une partie incroyable. Autour de la table, il y a des juges et des avocats. Restez avec nous dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Traverser l'Amérique du Sud et payer son voyage en jouant au poker, c'est le défi fou que notre invité s'est lancé en 2013. Il pensait tenir 6 mois, mais il est quand même resté 2 ans et demi sur les routes à moto. Nous sommes avec vous, Jonathan Salamon. Et parmi vos parties de poker mémorables, il y en a une qui se déroule en Argentine. Nous sommes dans la ville de Salta. Que se passe-t-il ? Plantez-nous le décor.
Salta. Alors, Salta... je venais de me faire arnaquer à la partie précédente de Tucumán, c'était l'étape précédente. J'étais dans un moment de bas du poker, de manque de confiance, etc. Et du coup, je joue dans un casino, puisque à Salta, il y a un casino. Et c'est une partie très facile qui me remet la confiance. Et on me dit, dans ce casino, tu sais, il y a ce qu'on appelle une peña, c'est un restaurant traditionnel où on joue de la musique, où dans l'arrière-salle, il se passe des trucs, quoi. Et va là-bas et va parler, va voir ce qui se passe. Donc la confiance est revenue, je vais là-bas, je vais dans ce restaurant. Je rentre dans le restaurant normal. Je me dis, il n'y a pas de poker là-bas. Mais bon, comme on m'a donné le tuyau, j'avance jusqu'au fond du restaurant, il y a un miroir que je contourne et j'arrive dans une deuxième salle. Et là, j'arrive dans la deuxième salle et il y a une femme qui s'approche, une serveuse, qui me demande ce que je veux. Bonjour, je suis français, je voudrais jouer au poker, je voyage à travers l'Amérique du Sud comme ça. Elle me fait, il n'y a pas de poker ici. Il n'y a pas de poker ici. Je fais, non, on m'a dit, Léo m'a dit qu'il y avait, nanana. Elle fait non. Et en fait, pourquoi elle fait ça ? Parce que c'est une partie privée où on ne peut pas rentrer aussi facilement, etc. Et c'est son boulot, quoi. Et donc, je suis déçu et pareil, je m'apprête à partir. Et là, il se passe un truc qui est qu'au fond de la salle, il y a deux petits retraités qui sont en train de jouer au domino. Et comme dans un film, il y en a un qui se retourne et qui fait « Alors comme ça, tu veux jouer au poker ?»
C'est sûr que ça sonne comme une scène de film.
C'est un vrai film. Et plusieurs fois dans mon voyage, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit « Mais c'est un film ce que je suis en train de vivre. » Et je fais « je veux jouer au poker. Voilà, je suis français, en Amérique du Sud, etc. » Il me fait « Reviens ce soir et demande à parler à Marcelo. »
Et alors, il y avait qui autour de la table ?
Et alors, je reviens, on passe le tuyau, etc. Et autour de la table, il y a un juge, apparemment haut placé. Il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des comptables et puis il y a des joueurs professionnels. Parce que c'est une partie assez chère. Et dans une partie chère, on trouve toujours, ces deux profils. D'un côté, ce qu'on appelle les gros poissons et de l'autre côté, les requins. Quoi. Donc,
ça veut dire quoi une partie chère ? Il y a combien d'argent sur la table ?
Sur cette partie, on joue, je crois que l'entrée est à 200 euros. Donc, après, ça dépend. C'est cher, c'est pas cher à la fois. Mais pour un pays comme l'Argentine, qui est un pays malgré tout qui est dans une crise assez forte aujourd'hui, 200 euros, ça reste. peut-être le tiers d'un salaire d'approf ou un truc comme ça. Donc, c'est relativement important.
Dans cette arrière-salle de ce restaurant à Salta en Argentine, il y a les gros poissons et les requins, et puis il y a vous.
Et il y a moi.
Et ça se passe comment, cette partie ?
Et ça se passe... donc, je suis toujours dans cette période un peu de manque de confiance par rapport à mon poker. Donc, je décide d'adopter une stratégie extrêmement serrée, extrêmement prudente. Donc, au début, ça se passe très mal parce que c'est une partie où il y a tellement d'argent en jeu que je me fais chambrer. Qu'est-ce que tu fais, le français ? Où est-ce que tu es ? Parce que je jouais très peu de mains. Mmh. Et donc, ça se passe un peu dans une petite humiliation au début où je joue peu de mains et on me chambre. Et puis arrive le moment où, voilà, ce qu'on appelle le spot au poker, c'est-à-dire le moment où on a une opportunité de faire un truc. Et cette opportunité me permet de gagner un peu d'argent, de me donner un peu d'air. Et puis l'air me permet de jouer un peu plus libéré. Mmh. Et puis de fil en aiguille, j'arrive à la plus grosse victoire de ma vie.
Combien ?
J'ai gagné 2 500 €. Pour le petit joueur que je suis, parce qu'à la base, je rappelle que je ne suis pas un joueur professionnel, je suis juste un passionné de poker. Quoi. Mm-hmm. C'était la plus grosse victoire et la partie se termine à 8h du matin.
Ça se termine bien ?
Ça se termine très bien, les gens étaient très corrects.
On se serre la main.
On se serre la main, les mecs me félicitent, félicitations Frances, etc. Et c'est là que la scène est incroyable parce qu'il est 8h du matin, le soleil commence à se lever, j'ai joué toute la nuit, je prends ma moto, je rentre, à ce moment-là j'étais dans un hôtel, le lever du jour et j'ai l'impression d'être un mercenaire. Quoi. C'est-à-dire que je rentre, mon hôtel en plus c'était un peu en dehors de Salta, dans la montagne, et je rentre au lever du soleil et je bois une bière avec, avec le gérant de l'hôtel qui était devenu mon pote entre temps, et c'est juste la bière de la victoire, et c'est là que je me dis waouh, il se passe un truc différent quoi. Et c'est à ce moment là que à la base ce voyage là j'avais l'intention de revenir à ma vie d'architecte, etc. Mais au moment où je bois cette bière, où je me dis waouh, il se passe un truc différent, je me dis cette vie elle est faite pour moi, et je continue et je
m'arrête pas. On parle beaucoup de poker depuis tout à l'heure, mais c'est aussi et peut-être d'abord un voyage avec des rencontres. Ouais. Il y a eu de très belles rencontres. Magnifique. Pendant ces 2 ans et demi.
Il y a eu tellement de rencontres. Il y a eu des rencontres qui ont changé ma vie. Quoi.
Une rencontre qui change votre vie ?
C'est une rencontre qui change ma façon de penser, qui change ma façon d'être. J'ai rencontré des filles dont je suis tombé amoureux, qui m'ont fait découvrir l'amour, voilà, si on peut parler comme ça. J'ai connu une psychologue à La Paz, en Bolivie, qui est devenue ma meilleure amie, c'est-à-dire qu'on se parle toujours. Il y a une fille dont je parle dans le... Alors ça, c'est la news incroyable, c'est qu'il y a une fille dans le bunker dont je parle, donc la première fille dont je suis vraiment tombé amoureux, une Bolivienne, que j'ai revue aujourd'hui. Voilà, que j'ai revu tout à l'heure. On ne s'était pas vu depuis 2 ans. Et elle vit à Paris. Alors ça, c'est vraiment le truc de fou. Et voilà. Donc,
vous racontez tout ça, Jonathan Salamon, dans ce livre ici d'un joueur itinérant, dans lequel il faut terminer par quand même le rêve de gosse, là. On ne l'a pas oublié.
Ouais.
Les championnats du monde de poker à Vegas. Ouais. Vous les avez joués ?
Je les ai joués. Alors là, l'histoire encore est incroyable parce que donc, j'arrive, après avoir traversé le Mexique, j'arrive à Vegas sans savoir comment je vais les jouer, mais j'ai envie de les jouer. Et la chance que j'ai à ce moment-là, c'est que le blog que j'ai créé, World Poker Trip, pendant tout ce temps, il est devenu un peu important. Donc j'ai beaucoup de mecs qui me suivent. Et puis il y a un de mes fans, on va dire, qui je lance un appel en disant j'aimerais le jouer. Il y a un de mes fans, un grand joueur de poker français, qui me fait écoute, je vais te le financer. Et alors c'est 10 000 $, en sachant que moi le plus gros tournoi de ma vie que j'ai joué c'était 300 $ jusqu'à maintenant.
Donc il fallait mettre 10 000 $ sur
la table. Mettre 10 000 $, qui était complètement en dehors de ce que je jouais d'habitude, mais ils me les donnent et j'ai joué les championnats du monde de poker.
Quoi. Bon voilà. Vous n'avez pas gagné sinon
je saurais. J'ai pas gagné, vous l'auriez su je pense. Bon. Mais voilà, j'ai été éliminé à la fin du premier jour, mais c'était une expérience magnifique. Quoi.
Merci beaucoup Jonathan Salamon, votre livre Récit d'un joueur itinérant est publié chez Hugo Doc.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.